Le Salon de la copropriété, les 5 et 6 novembre 2025, en partenariat avec Foncia sur Radio Immo.
Et oui, nous sommes bien sur Radio Immo. Merci si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours ici au Parc des Expos, porte de Versailles, pour vous faire vivre cette nouvelle édition du Salon de la copropriété qui fête ses 30 ans, qui réunit près de 10 000 visiteurs avec 300 exposants sur place. Et nous accueillons tout au long de ces deux journées de nombreux invités ici. Et je suis ravi d'accueillir Christelle Bruno. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Mais vous êtes la bienvenue, Christelle. Vous êtes directrice commerciale, grand compte chez Foncia, également présidente de Foncia Immo 9, pour parler donc d'un sujet important qui est évidemment la copropriété neuve. D'abord peut-être avant de parler de ce sujet-là, Foncia, est-ce qu'on peut rappeler que c'est un acteur majeur des services immobiliers résidentiels et comment est-ce que vous pouvez résumer quelque part votre place et le rôle de Foncia Immo 9 dans l'écosystème du logement neuf ?
Alors, la structure Foncia Immo 9, on a cette chance, c'est une structure qui a été créée il y a plus de 30 ans sur une maison Foncia qui a 54 ans. Oui. Ça veut dire qu'on a toujours considéré qu'on avait une spécificité liée au neuf, mm-hmm, et qu'il fallait absolument accompagner les acteurs de l'écosystème, tant les promoteurs, les réseaux bancaires de vente, les CGP, et puis bien sûr nos cabinets, qui quand même derrière vont accueillir ces nouvelles copropriétés partout en France. Et je crois pouvoir dire qu'on est leader sur les syndics neufs en France.
Voilà, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu le micro. C'est quoi, selon vous, les facteurs clés de réussite, justement, dans la gestion d'un immeuble neuf dès sa mise en copropriété ?
L'anticipation. Ouais. Alors, quand je vous dis l'anticipation, ça veut dire d'accompagner le projet dès son origine, alors même qu'il n'existe pas.
Okay.
C'est d'être très en amont sur des études de faisabilité, sur de la programmation d'un immeuble, savoir comment est-ce qu'il va vivre. Donc, en fait, l'idée, ça serait d'être dès le dépôt du permis de construire, finalement, et d'être en amont du sujet.
Anticiper. Devenir copropriétaire dans un immeuble neuf, c'est souvent une découverte complète. En quoi la copropriété neuve va finalement différer d'une copropriété ancienne, aussi bien dans son organisation que dans son quotidien ?
Alors, c'est très différent parce qu'en fait, une copropriété neuve, c'est une page blanche. Mmh. Donc, c'est beaucoup de défis, finalement, mais de formidables opportunités. En fait, les copropriétaires ne se connaissent pas, alors que dans l'ancien, bah, évidemment, ils se connaissent. Il n'y a pas de vécu. Les charges, le budget de charges n'existe pas.
Ben oui.
Le règlement de copro, finalement, est rédigé à la construction, mais il n'est peut-être pas complètement raccord avec la vraie vie de l'immeuble. On va pouvoir parler ensuite des garanties liées à cet immeuble. Enfin, il y a absolument tout à créer. Et puis, il faut créer la communauté qui va vivre dans cet immeuble.
Oui, des inconnus et créer autour de ça.
Voilà. Et en fait, c'est de les rendre acteurs. Alors que quand vous achetez dans un immeuble ancien et que vous devenez copropriétaire, entre guillemets, bah, vous subissez une vie collective qui existe déjà. Ouais. Là, vous avez la chance de pouvoir la co-construire avec nous, le syndic. Et on veut vraiment qu'il soit acteur, en fait.
Et justement, au démarrage, est-ce qu'il y a des erreurs qui reviennent comme ça de façon assez fréquente par les premiers copropriétaires ? Et comment est-ce qu'on peut peut-être les éviter ?
Ah, alors, des erreurs. Alors, ce qui arrive, mais de moins en moins fréquemment, si on est très honnête, c'est qu'effectivement, il y a un règlement de copropriété qui est né au moment de l'immeuble et qui n'est pas raccord avec la vraie vie de l'immeuble et qui du coup peut entraîner des surcoûts de charges ou finalement ça ne permet pas d'être vraiment représenter l'immeuble. Donc ça oui, mais j'allais dire je pense que ça s'est sacrément arrangé avec le temps. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand je dis la jeune génération, parce que les copropriétés neuves, c'est souvent des primo-accédants.
Okay.
Ils ne connaissent pas la copropriété. Mmh. C'est leur première acquisition. Mmh. Et il y a beaucoup de méconnaissances. Donc là, il y a un fort accompagnement à avoir. Et il peut y avoir, par exemple, entre un budget de charge et les honoraires du syndic, confusion. D'imaginer que le budget de fonctionnement de l'immeuble, ce sont les honoraires du syndic. Non, c'est pas tout à fait vrai.
Ouais.
Et puis, il y a beaucoup de règles. Je sais pas si je vous prends des trucs très, très, très concrets. Je ne sais pas, par exemple, chacun va vouloir installer son storeban d'une couleur ou va vouloir boxer son parking.
Ouais.
Oui, mais non, en fait, c'est une décision d'Assemblée Générale et il y a des règles à respecter pour le bien vivre ensemble.
Ouais. La collectivité. Là.
La collectivité.
Dans une copropriété neuve, et vous me corrigez si je me trompe, hein, le syndic initial, il est désigné par le promoteur. Et ça, donc, avant même la première Assemblée Générale. Comment ça s'organise, justement, cette phase de démarrage?
Oui, alors majoritairement, effectivement, le promoteur met un syndic provisoire dans le RCP. C'est vrai. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Certains ne veulent pas le faire, mais c'est majoritairement comme ça que ça se passe. Ça n'empêche qu'on est soumis au vote de l'Assemblée Générale. Hein. Le fait d'être syndic provisoire, c'est vous qui allez convoquer la première Assemblée Générale. Mais on est soumis au vote,
bien
et
sûr.
Ça sera quand même bien les copropriétaires qui voteront.
Ils décideront.
Par contre, c'est vrai que d'être syndic provisoire, et on revient sur l'histoire de l'anticipation, on va avoir été sur toutes les différentes phases de l'immeuble jusqu'à sa livraison. On va avoir établi un premier budget de charge. On va avoir mis en place les premiers contrats. Donc c'est sûr que c'est un avantage. Mais ça peut le syndic provisoire ne peut pas être le syndic définitif.
Hein, oui,
bien sûr.
Très bien de ne pas être reconduit par les copropriétaires qui en décideraient autrement.
Exactement.
Comment est-ce que Foncia va venir aider les premiers copropriétaires justement à poser les bases d'une gestion collective qui soit à la fois saine d'un côté et puis efficace aussi évidemment?
Alors, quand je vous dis qu'on fait de la pédagogie, c'est plus que de la pédagogie, c'est qu'en fait on fait des réunions d'information avant l'Assemblée Générale. Et quand je dis d'information, ça va être pour justement expliquer ce qu'est une copropriété, comment ça fonctionne, les règles de la vie en communauté. On va présenter un premier budget de charge en leur expliquant en fait effectivement qu'est-ce qui va être récupérable, pas récupérable, quels sont les types de contrats qu'on a mis en place et pourquoi. Mais en fait, l'idée, c'est quand même de les associer et déjà d'essayer de voir qui va pouvoir s'impliquer dans la copropriété. Donc justement, un président de CS, et tout ça, on le voit
un
en amont.
Exactement.
Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de les accompagner pour leur expliquer quand même qu'on attend d'eux un rôle majeur et actif pour que ça se passe bien derrière, en fait.
Et puis en plus, il faut le rappeler, mais les premiers mois, ils sont évidemment cruciaux, quoi.
Ouais,
entre le choix des contrats, la constitution du conseil syndical lui-même, la mise en place du budget. Là aussi, si on peut éviter des écueils, j'imagine que vous avez un rôle à jouer. Là.
Et la livraison des parties communes.
Des parties communes,
moment,
évidemment.
Voilà, où en fait, on va noter les réserves, on va suivre les réserves.
Ouais.
Et donc là, leur rôle est très important à nos côtés pour nous accompagner, bien sûr.
Et puis éviter, éviter quoi, en fait? C'est quoi les principaux écueils sur les premiers mois?
On n'a pas.
Il n'y en a pas. C'est formidable, là.
Non, mais parce que ce qu'il se dit, mais qui n'est pas complètement vrai, ça va être d'émettre des critiques vis-à-vis de la qualité de livraison et donc du promoteur, finalement. Et ça, c'est pas que vrai non plus. Ils arrivent aussi à livrer correctement ou en tout cas à lever les réserves. Et ça, par contre, c'est notre travail à nous de syndic d'être hyper présents sur la levée des réserves et ensuite d'être capable. C'est pour ça que c'est une spécificité que de savoir gérer du neuf et savoir gérer les différents types de garanties. Ça tourne autour de ça, les vrais sujets, en fait, souvent.
Et entre le moment où on réfléchit à ce que va être le bâtiment, entre le moment où on reçoit, en fait, il y a la livraison, il y a aussi des différences parfois qui peuvent être constatées entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on reçoit. Là aussi, vous avez un rôle à jouer.
Oui, mais ça aussi, je pense que tout ça, ça a beaucoup existé, mais que c'est beaucoup moins le cas maintenant. Honnêtement, on est plutôt sur de la qualité à l'heure actuelle.
Alors tout à l'heure, vous parliez d'inconnu quand même. Évidemment, quand on est dans le neuf comme ça, le budget prévisionnel est proposé sans historique.
C'est ça.
Donc là, c'est un vrai sujet. Comment est-ce que vous accompagnez les copropriétés justement dans cette construction budgétaire alors qu'on n'a pas d'historique, quoi?
Alors ça, c'est sûr que là, pour le coup, c'est un vrai savoir-faire. Et pour le coup, on fait des budgets de charges très en amont, en fait. On les fait bien avant en regardant, évidemment, toutes les clés de répart et tous les contrats qu'il faudra mettre en place. Et là où, effectivement, il y a souvent confusion, c'est que tout est sous garantie. Donc, vous prenez l'ascenseur, on va souvent ne pas avoir effectivement de frais sur la première année parce que l'ascensoriste va nous garantir la première année. Pour autant, il va falloir quand même anticiper ce coût. Parce que si on leur donne un budget de charge où beaucoup de choses sont à zéro parce que c'est sous garantie, l'année d'après, ça va être la douche froide.
Oui.
Donc on a tout intérêt à quand même déjà mettre les vrais coûts des contrats en l'expliquant, hein, bien sûr, et d'expliquer comment vont évoluer ces différents types de contrats. Mmh. Alors, le fait d'être le premier syndic de France, si vous voulez, en volume, nous permet quand même réellement d'aller chercher des vrais prix sur tous les équipements communs. La volumétrie qu'on gère nous permet de tirer les prix et vraiment d'essayer de maîtriser les charges au maximum.
Alors, vous parlez des garanties, justement. Les garanties concernent aussi bien les parties communes que les parties privatives. Comment est-ce que vous vous assurez que les propriétaires savent quand et comment intervenir en cas de désordre, en cas de défaut?
Alors, j'allais dire comment s'en garantir, ça, on ne peut pas, mais honnêtement, je pense que le premier réflexe, c'est de nous appeler, nous, dès qu'ils ont un sujet quand même, qui d'ailleurs pourrait ne pas relever de notre compétence, mais on est quand même là pour effectivement leur faire de la pédagogie sur les différents types de garanties et à quel moment il faut les activer ou pas les activer. Donc, et puis on a aussi un rôle crucial les premières années auprès des promoteurs pour leur demander de réintervenir avant de peut-être aller jusqu'à la déclaration d'assurance. Ils nous doivent une garantie, les promoteurs, quand même.
Il y a un vrai sujet sur ce salon, c'est la rénovation énergétique.
Ouais.
Là, on parle du neuf, donc ce n'est pas tout à fait pareil, même si l'environnemental, entre guillemets, est très, très, très important. Comment est-ce que ces performances énergétiques influencent-elles, finalement, la gestion aussi au quotidien des copropriétés ?
Là, vous mettez le doigt sur un sujet. Vous mettez le doigt sur un sujet parce qu'effectivement, ces immeubles, là, pour le coup, si on parle de DPE, ils ont des très bonnes notes. Hein, ils sont, alors, ils sont quand même pas passifs, mais ils sont quand même très peu énergivores. Mais finalement, les premières années, tous les équipements, enfin, tout ce qui a fait, on s'est tous dit, ça va baisser les charges. Et dans les faits, ça, en tout cas, ça n'a pas été le cas.
Okay.
Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait très peu d'entreprises qui savaient maintenir ces équipements. Et donc, comme ce savoir-faire était unique, bah, et clairement, les coûts des contrats étaient très élevés et il y avait tellement peu de monde sur ce secteur, on était obligés de faire appel à ces entreprises.
C'est moins vrai maintenant quand même.
Alors justement, ça se régule là aussi. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même, ça se régule avec le temps. Et du coup, finalement, maintenant, on arrive à avoir des charges assez bien maîtrisées. Et du coup, avec un vrai confort de vie pour les occupants, hein, par contre.
Donc, on a... des choses qu'on entretient aussi régulièrement. Les copropriétaires, est-ce que vous, demandez de faire attention justement à l'entretien préventif, à la bonne utilisation des équipements, justement, pour qu'ils respectent aussi toujours les bonnes normes, quoi.
Oui, on essaye, mais en fait, en toute honnêteté, on ne peut pas les vérifier comment ils vont gérer leurs équipements.
Non, mais vous les sensibilisez quand même.
Oui, on les sensibilise. On essaye de faire de la pédagogie. On a beaucoup de supports. On fait beaucoup de webinaires. Enfin, ça, par contre, on essaye d'être très actifs sur ces sujets-là. Mais ça reste de la vie en collectivité.
Ça reste de la vie en collectivité.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous leur dites à ces nouveaux copropriétaires pour bien comprendre justement leurs droits, leurs devoirs, ceux qui n'avaient pas justement l'expérience avant? Vous parliez tout à l'heure des primo-accédants.
Ouais.
Comment est-ce qu'on les sensibilise sur ces sujets-là qui sont évidemment hyper importants?
Alors, honnêtement, assez vite, ils l'ont la sensibilité parce que c'est leur bien et leur patrimoine. Mmh. Et on voit bien quand même la différence d'attitude. Par contre, c'est vrai qu'ils pouvaient avoir des réflexes. Quand précédemment, ils étaient locataires, en fait, il y a des moments où ils ne savent pas si ça relève de la collectivité, eux. Enfin, donc ça aussi, bah, simplement, pour le coup, ils nous contactent. Hein. Le quotidien, c'est de nous appeler donc, par tous les moyens et ça va être à nous de les orienter sur ce qu'ils doivent gérer eux tout seuls et ce qui relève de notre responsabilité et où c'est à nous de faire intervenir.
Alors je rappelle, en vous présentant tout à l'heure, vous avez une double casquette. Hein. Vous êtes à la fois directrice commerciale et présidente de Foncia Immo Neuf. Comment est-ce que vous voyez évoluer le marché du neuf, déjà dans un premier temps? Parce qu'il se porte quand même pas super bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis au-delà de ça, la gestion des copropriétés neuves dans les années à venir, comment est-ce que vous voyez ça?
Alors le marché du neuf, évidemment, hein, je crois que tout le monde est bien au courant que... difficile. Alors quand je vous dis difficile, c'est sûr que le volume de production est moindre, le volume de vente est moindre. Le temps, on ne va pas faire de politique ici, mais le temps qu'on n'aura pas un dispositif fiscal pour en tout cas aider l'investissement dans le neuf, ça ne redémarrera pas. Pour autant, on continue quand même à avoir des primo-accédants. Ça marche plutôt pas mal. Et puis les immeubles neufs sont aussi vendus aux bailleurs sociaux. Donc en fait, ça c'est quand même une... nous, on travaille beaucoup, beaucoup aux côtés des bailleurs sociaux. qui sont du coup, c'est de la copropriété mixte. Ils se retrouvent avec des primo-accédants et ils ont eux-mêmes leurs propres locataires. Donc là-dessus, ça reste un gros vecteur pour l'avenir. Enfin, ça, on aura toujours du volume sur ces aspects-là. Après, mon sentiment, là, c'est que par contre, il y a plein de nouveaux usages, il y a plein de nouveautés, et c'est ça qu'il faut accompagner. Et tous les nouveaux dispositifs, vous prenez le BRS, enfin, etc. Là-dessus, je pense qu'il faut avoir des vrais syndics aguerris sur ces thématiques-là et qui savent les gérer juridiquement, techniquement, avec un outil adapté, pour le coup.
Évidemment.
Ça, on a.
Vous parliez à l'instant de copropriété mixte. On va se revoir tout à l'heure pour évidemment parler de ce sujet-là. Peut-être une dernière question parce que je la pose à l'ensemble des invités qui viennent ici.
Ouais.
Même si ça paraît évident peut-être au niveau de la réponse, je pose quand même la question. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur ce type d'événement-là ?
Alors, évidemment, malgré tout, la notoriété, l'acteur numéro un du syndic de copro ne peut pas ne pas être présent sur un tel salon. Mais alors... au-delà de ça, pour ma part, c'est surtout d'aller humer l'air du temps, voir ce qui se dégage en termes de pratiques, d'usages, le moral de nos confrères et des intervenants. Hyper important d'être présent sur ce salon, bien sûr.
Et le moral, il est bon ?
Le moral, il va pas mal. Il va pas mal. On va pas...
Mais tant mieux.
Tant mieux.
Non, mais ça fait plaisir à entendre. Parce que bon, si on ouvre son journal ou on allume sa télé...
C'est vrai.
Voilà, c'est...
Non, mais il y a plein de nouveautés assez excitantes et moi, je trouve ça plutôt... c'est vivifiant.
Bon, bah, c'est top de terminer sur cette note d'optimisme. Un grand merci à vous. On se revoit tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également de nous avoir suivis. Cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, vous pouvez la trouver en intégralité, en replay, sur le site internet de Radio Immo ou également sur l'application. Et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
Le Salon de la copropriété, les 5 et 6 novembre 2025, en partenariat avec Foncia sur Radio Immo.